alors que c'est vraiment des souffrances humaines. Mais pour Pierre, il n'y a aucune contradiction. Oui, les souffrances vécues par ces chrétiens, elles ont une réalité concrète, elles ont une réalité observable, mais pour autant, elles ne sont pas là par hasard. Parce qu'il faut rappeler qui sont ces hommes et ces femmes qui ont placé leur foi en Jésus. Chapitre 2, verset 9. « Vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. » Cette petite communauté d'hommes et de femmes, donc insignifiante à vue humaine, est infiniment précieuse aux yeux de Dieu. Alors bien sûr que les chrétiens ne sont pas les seuls à souffrir dans le monde, c'est une évidence. Mais l'adversaire a des raisons toutes particulières de frapper les disciples de Jésus. Parce que ces disciples sont porteurs d'une bonne nouvelle que l'adversaire déteste. L'adversaire, c'est vraiment le maître de la mauvaise nouvelle. D'ailleurs, vous remarquez que le monde se plaît à transmettre plutôt des mauvaises nouvelles que la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le diable tente de s'opposer à tout ce qui est donc porteur de l'espérance qui se trouve en Dieu. La dernière chose qu'il souhaite, c'est qu'on place notre espérance en Dieu. Et il cherche à convaincre les hommes qui n'ont rien à espérer de ce côté-là. Et tout à espérer, par contre, d'eux-mêmes ou de divers faux dieux. Alors comment est-ce que l'adversaire cherche à convaincre des chrétiens, des disciples de Jésus, de se détourner de cette espérance qui leur est acquise en Christ? Eh bien, entre autres, en leur infligeant des souffrances qui pourraient leur faire regretter peut-être leur vie d'avant, leur vie sans Dieu. Se dire, bah, dis donc, si c'est pour vivre comme ça que j'ai cru en Dieu, je préférais comme c'était avant. Une réaction humaine et souvent compréhensible sur le moment. Incompréhension familiale, marginalisation sociale, des épreuves tout simplement comme la maladie, peuvent nous faire douter de la bonté de Dieu. L'adversaire cherche à tout prix à nous faire douter de Dieu. Mais Dieu, lui, nous rappelle au cœur même de l'épreuve que nous sommes appelés à lui faire confiance. Il faut se rappeler ce que Pierre a écrit au début de sa lettre, au chapitre 1, versets 6 et 7. « Vous êtes attristés par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. » Dieu permet des épreuves dans lesquelles l'adversaire s'en prend à nous. Le livre de Job dans l'Ancien Testament est entièrement axé d'ailleurs sur cette question. Et il faut reconnaître qu'il y a là une part de mystère. Mais si Dieu laisse l'adversaire s'en prendre à nous pour un temps et dans une certaine mesure, c'est pour le vaincre encore et encore. Parce que si par la grâce de Dieu nous tenons dans l'épreuve, alors on va connaître exactement le contraire de ce que l'adversaire voulait nous infliger. Au lieu d'être découragés, nous serons encouragés et renouvelés dans notre foi. Au lieu de perdre notre confiance en Dieu, nous placerons en lui une confiance d'autant plus forte. D'autant plus forte que nous aurons fait l'expérience de sa présence, l'expérience de son secours, l'expérience de sa paix même dans la tempête. Et là encore, la preuve par excellence de ça, c'est la croix de Jésus-Christ. À la croix, le prince des démons a cru triompher, comme la Bible l'appelle parfois, le diable a cru triompher. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi messianique, le sauveur, lui qui a été envoyé pour sauver l'humanité et qui se retrouve méprisé, outragé, crucifié. On lui a craché au visage, mais en apparence, c'était le triomphe total de l'adversaire. Et pourtant, alors même qu'il pensait triompher, c'est là que le diable subit la défaite décisive. Lui qui faisait son fonds de commerce du péché humain, il voit le péché expié, c'est-à-dire couvert par la mort sacrificielle de Jésus. Et au troisième jour, lui qui pensait faire triompher la mort, qui est la conséquence du péché de l'homme, a vu la mort engloutie par la vie. Là encore une expression biblique. Engloutie par la vie au matin de Pâques. Je ne sais pas si certains ont vu le film qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, La Passion du Christ de Mel Gibson. Bon, on peut toujours discuter sur ce film, je n'ai pas tout apprécié dedans. Mais cette réalité que je viens de décrire est assez bien rendue par un cri assourdissant qui est poussé par le diable, ce qui représente dans ce film le diable, au moment de la mort de Jésus. c'est présenté comme cela. On a Jésus qui rend l'esprit et il y a ce cri déchirant du diable qu'on entend. Alors, bien sûr, c'est du cinéma. Hein. Il n'y a pas eu un cri physique comme cela du diable au moment de la crucifixion. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'au moment où j'ai vu ce film, il y a assez longtemps, je me suis demandé si c'était un cri de triomphe ou un cri de défaite. Et en fait, c'est peut-être un peu les deux à la fois. C'est-à-dire d'abord un cri qui commence par la victoire apparente, mais qui se transforme en cri de terreur devant l'évidence stupéfiante du plan de Dieu. Oui, nous avons un adversaire résolu, la Bible l'enseigne. On a beau nous dire que tout ça, c'est dépassé, tout ça, on ne peut plus y croire au XXIe siècle. La réalité quotidienne du monde dément sans cesse cette idée qu'il n'y a pas de mal dans le monde. Ou que s'il y a mal, c'est simplement en quelque sorte des mauvais penchants de l'homme qui peuvent être rééduqués, etc. Je crois que si nous sommes honnêtes, nous reconnaissons qu'il y a une dimension mystérieuse dans ce monde qui est cette dimension du mal, qui est plus sombre qu'une simple défaillance. Et la Bible explique cela simplement par l'existence de cette puissance spirituelle qui, dans la nuit des temps, s'est opposée à Dieu et qui aujourd'hui s'oppose encore à lui, mais qui ne pourra pas le faire pour toujours. Parce que cet adversaire est déjà vaincu. Il est en sursis pour un temps, mais son sort est scellé, comme nous le révèle l'Écriture. Et c'est pour cela que nous n'avons pas besoin, nous, de chercher à le vaincre. Nous devons simplement nous opposer à lui ferme dans la foi, nous dit Pierre, verset 9. Donc comment résister au diable? Une question que se posent les chrétiens souvent. Par la foi en Dieu. Opposez-vous à lui ferme dans la foi. Par la foi en Dieu. Pas par des incantations, pas par des tentatives de pugilat spirituel, mais par la fermeté de la foi, nourrie par la prière. Parce que la pire des choses pour l'ennemi, c'est que nous faisions confiance à Dieu. Rappelons là encore ce que Pierre a écrit au début de sa lettre, chapitre 1, verset 3. Dieu nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc si nous avons confié notre vie à Jésus-Christ, nous avons déjà en lui et par lui, remporter la victoire sur l'adversaire, par la puissance de Dieu. Et lorsque, pour un temps, Dieu permet que l'adversaire nous atteigne encore, pour pouvoir encore mieux le vaincre dans notre vie, notre unique recours, notre solide espérance, c'est de nous confier en lui. Et pour ça, j'en reviens à l'idée de départ, nous devons éviter toute distraction. Nous devons rester concentré sur l'essentiel, c'est pour ça que Pierre nous dit, il l'avait déjà dit plusieurs fois dans la lettre, de rester sobre et de veiller, comme celui qui doit rester attentif en conduisant de nuit, parce que le danger est là, dans ce monde. Parce que nous avons un adversaire résolu qui cherche à nous faire trébucher, et Pierre le compare à un lion qui rôde en cherchant sa victime, et l'adversaire rôde peut-être d'autant plus qu'il sait, en tout cas il sait dans une certaine mesure que son temps est compté, il le sait je pense depuis la croix. Mais nous savons que Dieu n'abandonnera pas ceux qu'il garde par sa puissance et il ne reviendra pas sur ses promesses. Et c'est mon deuxième point, qui sera nettement plus bref, une promesse irrévocable. Pierre met en garde ses lecteurs. Leur adversaire est encore là, mais il équilibre immédiatement cette mise en garde par une promesse rassurante. Verset 10, « Quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui en Jésus-Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, vous formera lui-même, vous affermira, vous rendra fort et inébranlable. » Oui, les chrétiens d'Asie mineure souffrent. L'adversaire s'en prend à eux, mais il ne faudrait pas oublier qu'ils ont été appelés à sa gloire éternelle. C'est fait, c'est déjà décidé, c'est déjà inscrit dans les cieux. Et par conséquent, Pierre peut parler au futur, pas au conditionnel. Mais il dit, le Dieu de toute grâce vous formera lui-même, vous affermira, vous rendra fort et inébranlable. Je pense que c'est une réalité qui commence déjà dans la vie présente, mais qui sera pleinement accomplie dans la vie à venir. Et nous avons là un rappel magnifique. J'ai anticipé un peu. Nous avons là un rappel magnifique de ce qui fait notre assurance. La première lettre de Pierre, à plusieurs reprises, nous rappelle que Dieu a déjà fait l'impensable pour nous. Et que si nous avons placé notre foi en Christ, notre avenir est garanti. C'est une certitude. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que notre avenir éternel ne dépend pas de nous. Il ne dépend pas de nos capacités à faire le bien. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. Il repose sur ce que Dieu a fait dans l'histoire, ce que Dieu a fait objectivement. Et par-dessus tout, son œuvre à la croix. Je crois l'avoir déjà dit ici, les deux jours les plus importants de notre vie sont le vendredi où Jésus a été crucifié et le dimanche où il est ressuscité. Oui, c'est vrai, nous n'étions pas là. Mais si nous avons cru en Christ, notre vie aujourd'hui est ancrée en ce qu'il a fait ces jours-là. Jésus est mort pour le pardon de nos péchés, il est ressuscité, prouvant ainsi le triomphe de Dieu contre le mal et la mort, et inaugurant pour nous une vie nouvelle et éternelle. Et c'est pour ça que Pierre peut pleinement rassurer ses lecteurs qui souffrent. Ce n'est pas du fatalisme, ce n'est pas du stoïcisme. Souffrez parce que c'est bon de souffrir, ça nous permet de devenir endurants. C'est pas ça l'idée. Ce n'est pas une fin en soi. Mais c'est souffrez parce que vous savez pourquoi vous souffrez. Et vous souffrez parce que vous êtes les disciples de celui qui a déjà remporté la victoire sur le mal, la mort et la souffrance. Dieu est celui qui détient le pouvoir pour toujours, verset 11. Et par conséquent, verset 12, c'est bien dans la vraie grâce de Dieu qu'ils se tiennent. Pierre rassure ses lecteurs, vous ne faites pas fausse route en suivant Jésus-Christ. Vous vous tenez dans la vraie grâce de Dieu. On vit dans un monde où la souffrance, elle est présente. C'est une évidence. L'adversaire est actif. En parlant de l'adversaire, il ne s'agit évidemment pas de nier la responsabilité humaine dans la souffrance de Dieu. Il y a là une sorte de cycle infernal où l'adversaire incite, mais l'homme participe pleinement. Et la Bible parle de ces deux aspects, du mal et du péché. Mais dès aujourd'hui, Dieu nous appelle à fixer les regards sur le monde qui vient, ce monde qu'il a déjà inauguré lorsqu'il a vaincu la mort le jour de la résurrection de Jésus, il y a environ 2000 ans. Le jour de la résurrection de Jésus, c'est le jour 1 du monde nouveau. Et c'est pour ça que nos regards doivent être à la fois tournés vers ce jour, dans le passé où Jésus est ressuscité, et portés sur l'avenir où ce monde nouveau qui a déjà été manifesté dans sa résurrection sera étendu à toute la création. Mais Pierre nous dit donc, tenez bon, vous ne vous trompez pas, vous n'êtes pas en train de faire fausse route en choisissant Jésus-Christ. Accrochez-vous à votre Sauveur et Seigneur et fixez vos regards sur la terre promise. On pourrait s'arrêter là, mais je vais quand même brièvement aborder un dernier point qu'il ne faudrait pas négliger. C'est que cette vie vécue entre épreuve et espérance, elle ne se vit pas tout seule. Et je crois que c'est un message qu'il est important de redire ce soir, peut-être particulièrement ici à la RDS. Cette vie ne se vit pas tout seule, elle se vit en communauté. Une solidarité indispensable, c'est mon dernier point. Pierre souligne de plusieurs manières dans ce texte cette solidarité, cette dimension communautaire. D'abord au verset 9, « Opposez-vous à lui ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Alors on a envie de dire à première vue que c'est un drôle d'encouragement, hein. Vous souffrez, mais bon, au moins sachez que vous n'êtes pas les seuls. Il y en a beaucoup d'autres qui souffrent en même temps. C'est pas ça que Pierre veut dire, bien sûr. Ce qu'il veut dire, c'est que l'adversaire s'attaque à un peuple, pas simplement à des gens ici et là, mais à un peuple de Dieu qui dépasse les frontières, qui grandit, qui est porteur d'une bonne nouvelle, qui est attaqué. Et donc, entre tous les croyants, partout dans le monde, il y a un lien indestructible, il y a une solidarité qui vient du fait que nous avons tous été sauvés par cette même grâce de Dieu. Pierre encourage ses lecteurs et il leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls dans cette épreuve qu'ils vivent, mais qu'ils font partie d'un peuple de plus en plus nombreux. Et s'ils pouvaient le dire à l'époque, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Un peuple de plus en plus nombreux qui va hériter les promesses de Dieu. Et c'est pour ça qu'il les salue depuis l'église de Babylone, entre guillemets. C'est une façon symbolique de parler de Rome. Babylone n'existait plus à l'époque où Pierre écrit. Mais Rome, qui comme Babylone, plusieurs siècles plus tôt, représente la ville qui... en quelque sorte l'empire qui s'attaque au peuple de Dieu. Les chrétiens d'Asie mineure et ceux de Rome ne se sont jamais rencontrés pour la plupart. Pierre écrit à des chrétiens en Asie mineure, mais ils peuvent quand même se saluer au nom de la profonde solidarité qui existe entre eux. Pour nous, c'est un bon rappel, s'il en est besoin, de ce que l'Église, le peuple constitué des disciples de Jésus-Christ, à une réalité mondiale. Alors c'est assez facile de se dire solidaire des chrétiens partout dans le monde, bien sûr c'est moins facile de le vivre. Et nous devons nous assurer, en tant que croyants individuels, mais aussi en tant qu'Église, que nous nous intéressons à l'actualité du peuple de Dieu partout dans le monde. On va passer l'éternité avec ses frères et sœurs. Alors, comment ne pas nous intéresser à eux dès aujourd'hui? Comment ne pas les porter dans nos prières dès aujourd'hui? À ce sujet, je vous conseille une très bonne ressource qui est le site de la mission Porte Ouverte. Un site donc www.portesouvertes.fr, un site qui est consacré à la question des chrétiens persécutés et où il y a beaucoup d'informations très utiles. Dans le bulletin également que j'envoie à beaucoup d'entre vous chaque semaine ou pour ceux qui viennent le dimanche matin qui est distribué, il y a toujours un paragraphe qui est consacré aux nouvelles de l'Église persécutée et qui est là aussi pour alimenter nos prières. La solidarité chrétienne donc se vit au-delà des frontières. Mais elle ne se vit pas simplement au-delà des frontières, elle se vit aussi dans l'Église locale. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a voulu que l'Église ait des représentations locales. Pierre n'en dit pas grand-chose ici, mais il y a quand même des petits indices. Déjà, il invite les croyants à se saluer les uns les autres par le baiser de l'amour. Alors, selon les cultures, le baiser de l'amour, c'était une sorte de bise, en fait. Encore dans la culture française, c'est pas trop difficile de parler de cela. Mais c'est peut-être le baiser de l'amour, ça peut être une poignée de main de l'amour, je pense, aujourd'hui, si on préfère. Ou ça peut être une bise, ou ça peut être une embrassade au sens d'origine du terme. Peu importe le geste, en fait, c'est évidemment la réalité dont il est question ici. Ce baiser de l'amour, Pierre parle dans la culture de l'époque, ça implique une famille. En fait, c'est une salutation familiale. Ça implique des hommes et des femmes qui sont proches les uns des autres, qui connaissent leurs situations respectives, qui connaissent leurs joies, qui connaissent leurs peines, qui connaissent leurs défis. Si on ne se connaît pas du tout, ce n'est pas tellement le baiser de l'amour. Ça va être plutôt « bonjour, comment ça va ?»« Ça peut aller ?» Et on s'arrête là. Bien sûr qu'on ne peut pas tous se connaître très bien, mais ce n'est pas une excuse pour ne connaître personne ou que nos relations restent superficielles. Et peut-être que pour certains, et je m'inclus aussi dedans, au moins à certains moments, ou peut-être tout le temps, on doit réfléchir à la manière de concevoir la vie d'Église et on doit peut-être changer de conception de la vie d'Église. L'Église, ce n'est pas simplement un endroit où on va le dimanche matin ou soir, où on espère recevoir quelque chose et puis on dit vite fait bonjour à deux, trois personnes qu'on connaît à peine et on repart dès que possible. L'Église locale, c'est une famille. Et l'une des manières dont nous voulons encourager cet aspect familial dans notre Église, c'est la nouvelle formule de la réunion du jeudi soir, à partir du 18 octobre, jeudi 18 octobre, 19h30, notez bien. Nous voulons que cette réunion, elle soit en quelque sorte une réunion de famille, où on partage nos joies et nos peines, où on apprend à mieux se connaître, où on étudie la Bible ensemble. Une fois sur deux, ça sera en petit groupe. Une fois sur deux, ça sera ensemble, en groupe commun. On avait jusqu'à maintenant une réunion pour les jeunes adultes le mardi soir, et on avait une réunion où de fait venaient majoritairement des gens plus âgés. Le jeudi, on a décidé d'avoir une seule réunion au lieu de deux pour les adultes de tous les âges, et même éventuellement moins qu'adultes, pourquoi pas. Ce sera donc la même réunion pour tous à partir du 18 octobre, et même si jusqu'ici vous n'étiez pas habitué du jeudi soir, c'est le cas de la plupart d'entre vous, je sais que ce n'est pas possible pour tous, ou en tout cas pas toutes les semaines, mais je vous encourage, si vous n'avez pas d'empêchement, à envisager de venir à cette rencontre qui sera vraiment, je pense, un moyen de grandir ensemble en tant que famille spirituelle avec le Seigneur Jésus-Christ. On espère commencer à 18h45 pour ceux qui le peuvent avec une sorte de collation informelle ou un pique-nique. On verra, c'est encore à définir. Mais à 19h30, la réunion à proprement parler commencera. Il y a aussi l'initiative des dîners par quartier. Il y en a eu un il y a quelques mois. On espère en avoir un nouveau très bientôt. On l'annoncera prochainement. Donc nous voulons mieux nous connaître, parce qu'en fait, si nous avons confié notre vie à Jésus-Christ, on va passer l'éternité ensemble. Donc autant apprendre déjà à se connaître dès aujourd'hui. Amen.